À l'émission Marcher en creusant, nous vous présentons une émission de la série ayant comme titre « Vivre de tout son être », animée par le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
Cette dernière émission, après avoir fait ce long parcours à travers la quête spirituelle et thérapeutique de nos contemporains et nous être interrogés sur la façon dont le Seigneur lui-même accueille cette quête, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'accueil chrétien de ce cheminement, de ces quêtes telles qu'on les voit aujourd'hui. Dans la dernière émission, je vous avais parlé de la souffrance et des questions qu'elle nous pose. Et je n'ai pas du tout la prétention d'avoir fait le tour de la question. Parce que nous sommes confrontés là à des réalités qui sont tellement mystérieuses et nous renvoient au fait que nous ne pouvons pas mettre la main sur Dieu et que nous n'aurons sans doute pas toutes les réponses ici. Et cela nous est difficile dans un monde où on a tellement progressé sur le plan philosophique ou scientifique et où on a l'habitude d'avoir des réponses et de toujours trouver des coupables. Ce qui est notre grande tentation également. Donc, je voudrais maintenant vous parler d'un accueil chrétien de la quête, de cette quête spirituelle très large, qui est aussi une quête thérapeutique, comme on l'a vu, et terminée par quelques critères de discernement. Je l'ai dit, tout d'abord, nous ne pouvons pas identifier guérison et salut. Il y a des personnes qui sont guéries, et qui en fait ne font aucun chemin spirituel. Il y en a d'autres qui ne guérissent pas, mais qui découvrent Dieu à travers leur chemin. Il y en a d'autres qui ne guérissent pas et qui sont dans la révolte. Et puis il y en a qui guérissent et qui, petit à petit, découvrent un nouveau sens à leur vie et reviennent à une démarche spirituelle. Et nous avons vu que si le Christ guérit, pour bien montrer que son salut concerne toute la personne, il n'a jamais identifié guérison et salut. Et cela me paraît très important aussi pour les communautés chrétiennes, et particulièrement lorsque dans des groupes de prière, par exemple, on prie pour la guérison. Parce qu'on pourrait laisser entendre que c'est le groupe qui donne la guérison, ou que des prières de guérison, lorsqu'elles sont bien faites, donneront automatiquement une guérison. Non, c'est pas si simple. Notre Dieu est libre de répondre comme il le pense bon pour la personne, et même si ça nous heurte de ne pas voir tout de suite de résultats, il faut croire qu'il continue à nous écouter. Et donc éviter de dire aux gens, eh bien si tu as vraiment la foi, tu seras guéri, parce qu'après, si la personne n'est pas guérie, elle peut se sentir condamnée par Dieu, ou bien si c'est une personne fragile psychologiquement, connaître des décompensations et régresser et avoir des conséquences encore plus graves. Mais par rapport à l'ensemble de cette quête spirituelle et thérapeutique, je disais que le fait qu'on soit mis en question parfois par ces chercheurs de Dieu, ces chercheurs d'absolu, peut provoquer des crispations chez nous. Alors il me semble qu'en tant que communauté chrétienne, nous avons à entendre que des gens aujourd'hui sont en recherche et que c'est une chance de les écouter. Je travaille moi-même depuis pas mal d'années avec ce qu'on appelle des recommençants à croire. Je vous ai expliqué ce que ça voulait dire dans une émission précédente, des personnes qui reviennent tout doucement au christianisme et à l'Église. Et comme ces personnes, pour un certain nombre d'entre elles, ont été choquées, blessées, parfois par l'Église ou par des attitudes soi-disant chrétiennes, et qu'elles ont découvert d'autres expériences spirituelles, elles ont vécu de nouvelles découvertes ailleurs, eh bien, elles nous posent des questions qui nous dérangent. Parce qu'elles nous obligent à reformuler peut-être autrement la bonne nouvelle et à reconnaître qu'il y a peut-être eu des perversions dans le discours sur Dieu, sur la volonté de Dieu, sur sa toute-puissance, sur l'aspect automatiquement bénéfique de la souffrance, etc. Donc, il nous faut accueillir les nouvelles quêtes spirituelles et thérapeutiques et faire de nouvelles propositions aussi à ces personnes qui sont en recherche. Des propositions spirituelles qui prennent toute la personne en compte. Alors, le danger, évidemment, c'est qu'à cause du nombre de propositions qui sont faites et la difficulté de discerner, eh bien, on est uniquement un réflexe de protection. Alors, il y a des personnes qui peuvent avoir des attitudes différentes suivant, effectivement, le regard qu'elles vont poser sur la réalité de cette nouveauté. Et il me semble qu'il y a trois attitudes fondamentales qu'on peut retrouver. Il peut y avoir une première attitude qui est celle du rejet et de la condamnation. Une deuxième qui serait l'acquiescement naïf, et une troisième qui est le dialogue sincère en vue d'un discernement. Donc une première réaction qui serait celle des personnes qui se sentent menacées, je dirais des bons chrétiens, des pratiquants, et qui pourraient trouver que toutes ces expériences-là sont des expériences purement narcissiques, de gens qui se fourvoient sur des chemins de traverse et condamnent systématiquement tout ce qui a pu être découvert ailleurs. Et quand je disais que le positif que je voyais dans cette quête contemporaine, c'est le fait que ça nous renvoie à une approche holistique de la personne, à la responsabilité de faire un travail sur soi-même, eh bien, effectivement, je crois qu'il faut l'entendre plutôt que de dire « mais non, mais l'Église, elle a 2000 ans, puis elle a bien trouvé toutes les réponses ». On reproche à ces expériences d'être éclectiques ou syncrétistes. D'accord, d'être trop individualistes, c'est vrai, c'est souvent le cas. Mais qu'est-ce que nous avons à entendre lorsqu'on voit la façon dont toute la personne, dans sa vie de relation, sa vie psychologique, son corps, son rapport au cosmos, à son environnement, eh bien, est là avec toutes ces questions et nous dit que ça concerne aussi la vie spirituelle. Il y a des nouvelles expériences thérapeutiques qui sont très enrichissantes. Et même si on y a mis le label « Nouvel Âge » ou « New Age », ça ne veut pas dire forcément qu'elles sont sectaires, ces expériences. Donc le danger, c'est de rejeter systématiquement ce qui est différent de nous. Le rejet de la différence, le rejet d'une certaine pluralité de réponses, le rejet d'une diversité de langage. Et je crois que c'est dangereux. Nous, chrétiens, parfois, nous avons une telle méfiance pour la nouveauté que, comme disait un de mes confrères, avant même que le poulain soit né, le réseau de fils de fer barbelé est installé. Non, faisons confiance à l'esprit. Il a des choses à nous apprendre aussi dans les autres et dans d'autres expériences. Donc, ne rejetons pas systématiquement ce qui nous dérange, mais discernons. Alors, bien sûr, il y a une autre attitude qui est dangereuse, c'est d'appliquer sans discernement le principe « c'est bon et c'est vrai, puisque cela me fait du bien », physiquement, psychiquement, moralement. Je vous disais qu'il y a énormément d'expériences qui sont proposées aujourd'hui, et ces chercheurs de Dieu, ces chercheurs d'absolu, et je suis certain qu'il y a des gens qui m'écoutent pour le moment et qui sont dans un chemin comme celui-là, et un chemin honnête et vrai et exigeant. Eh bien, il y a le risque, parce que l'on veut expérimenter et que l'on va faire, on va utiliser comme critère « cela me fait du bien », eh bien, il y a le risque justement d'être trop centré sur soi-même et d'être trop pragmatique et de vouloir absolument des résultats immédiats. Alors dans ce cas-là, eh bien, toutes les sessions sont bonnes, tous les groupes sont bons, toutes les expériences thérapeutiques sont bonnes, même si c'est fait par des thérapeutes autoproclamés ou par des soi-disant maîtres spirituels qui jouent au gourou et qui, pour finir, entraînent des groupes dans une spirale de recherche de soi, de recherche d'expérience, jusqu'à entraîner ce qu'on a pu rencontrer dans des suicides collectifs ou bien les expériences, justement, de l'ordre du temple solaire, qui ont été des suicides ou des massacres, on ne le sait pas très bien encore aujourd'hui, mais aussi des délires complets où les gens se sont complètement identifiés à leur gourou. Donc attention à un discernement, attention aussi à ne pas tout ramener au bien-être que je recherche, à cette équation entre salut et bonheur immédiat maintenant. Alors puisqu'il n'est pas souhaitable de pratiquer le rejet de la nouveauté et de la différence sans distance critique, ni de se perdre dans une sorte d'enthousiasme naïf, parce qu'il y a toujours du nouveau, et qu'on aime beaucoup le nouveau, et puis qu'on aime bien faire partie d'une élite, d'un groupe d'initiés, des gens qui savent sur la nourriture, sur les astres, sur les thèmes astro, sur le voyage dans l'astral, sur le travail énergétique. Il y a des choses excellentes, mais le danger d'une sorte d'élitisme naïf. Alors justement, il nous faut faire un discernement dans l'esprit. Ce discernement, qui est ce discernement chrétien, qui nous renvoie à ce travail de responsabilité que nous avons face à notre chemin spirituel, mais en étant en relation avec une tradition sérieuse. Alors je ne dis pas que le discernement doit obligatoirement se faire dans le contexte de l'Église catholique pour des personnes qui ne seraient pas chrétiennes, mais au moins qu'elle se relie à une vraie tradition, une tradition ancienne qui va donner de vrais critères de discernement déjà. En plus, en tant que chrétien, nous avons cette expérience du discernement qui est très ancienne et où on juge l'arbre à ses fruits. C'est-à-dire à la fois être dans cette attitude du dialogue interreligieux. Et vous savez que depuis Vatican II, depuis la rencontre d'Assise en 1986 entre Jean-Paul II et toutes les grandes religions, eh bien, il y a cette attitude de dialogue, de dire « il y a aussi du bon chez les autres ». Nous avons à apprendre, nous pouvons apprendre des choses des bouddhistes, des hindous, on peut entendre des choses positives dans le yoga, faire un minimum de travail sur soi-même dans une expérience psychologique nouvelle, faire un travail sur le corps dans une tradition orientale, eh bien c'est pas forcément tomber dans une névrose ou dans une spirale satanique. Donc il ne faut pas diaboliser la différence, mais il faut discerner. Il faut discerner, et je dirais qu'un des grands principe de discernement, c'est en quoi est-ce que ce que je suis en train de vivre me fait grandir en liberté intérieure? En quoi est-ce que ce que je découvre m'aide à être plus homme, plus frère, plus en relation avec d'autres, plus autonome, plus capable d'aimer? Et c'est là que nous avons à accueillir avec bienveillance la quête qui est là. Et il est important que les gens qui sont en recherche et qui ne savent pas très bien où ils en sont puissent être écoutés avec bienveillance. Mais il est important aussi que nous puissions rendre compte de l'espérance qui est en nous. Il est important de pouvoir dire, comme Jésus disait à la Samaritaine, « si tu savais le don de Dieu ». Aider ces personnes à découvrir que, eh bien oui, à travers ce qu'elles ont traversé là comme expérience, l'Esprit-Saint aussi était à l'œuvre. Leur permettre de faire une relecture de leur histoire, avec ce regard de Dieu qui est un regard de bienveillance, et de transformer cette histoire qui a peut-être été chaotante et qui peut-être a connu des moments de souffrance et des blessures, la relire comme une histoire sainte où ils n'étaient pas seuls. Vous connaissez cette image où l'on raconte que quelqu'un qui relisait sa vie et la comparait à des traces dans le sable au bord de la mer, eh bien, dit, ben voilà, je vois que il y a deux traces là, dans le sable, et puis au moment les pires, eh bien, il n'y a plus qu'une trace. Et comme on comparait la deuxième trace avec la présence de Dieu qui marchait à côté de moi, eh bien, il dit, mais alors, tu m'as lâché au moment de l'épreuve? Et la réponse de Dieu est était, mais s'il n'y avait plus qu'une trace à ce moment-là, mais c'est que je te portais. Donc, essayez de faire comprendre que le Seigneur est là et qu'il est présent aussi, même dans toutes ces expériences que nous avons pu faire. Ce message-là peut aider une personne à se réapproprier son histoire comme une histoire sainte, en faisant les ruptures qui sont nécessaires, mais aussi en se rendant compte qu'il y a quelque chose à se réapproprier et découvrir qu'il y a en nous une source qui était déjà en train de sourdre, qu'est cette vie intérieure de l'Esprit, parce que c'est lui le maître intérieur, c'est l'Esprit-Saint, c'est lui qui permet de relire. Si vous nous rejoignez maintenant, je vous rappelle que nous sommes en train de réfléchir sur la façon dont une communauté chrétienne peut accueillir la diversité des quêtes spirituelles aujourd'hui, en évitant d'un côté la naïveté et d'un autre côté la condamnation, mais en essayant de s'ouvrir de façon positive à la nouveauté de ce qui se passe sous nos yeux aujourd'hui et qui peut être une chance pour rencontrer ces quêtes de façon évangélique. Je crois donc que nos communautés chrétiennes peuvent être des lieux de guérison par la qualité de leur accueil, de leur écoute, par le respect de la fragilité et la place donnée aux personnes fragiles, par l'utilisation des charismes. Il y a des communautés nouvelles qui font un travail extraordinaire de présence et d'accueil de personnes qui sont complètement rejetées et qui normalement seraient en institution psychiatrique. Il faut reconnaître aussi que souvent on nous reproche à nos communautés de ne pas être assez fraternelles. Or, je crois que ce qui guérit, c'est aussi vivre la fraternité. Et que c'est la qualité de cette fraternité qui révèle la beauté de la paternité de notre Père et nous permet de nous découvrir fils, fille bien-aimée du Père. Lors d'une recherche qui avait été faite en ce qui concerne les nouvelles spiritualités, on avait constaté dans la réponse à une enquête qu'on reprochait au christianisme 4 lacunes existentielles. C'est l'expression qui avait été employée. Qu'on ne parlait pas de la place du corps, qu'on ne disait plus rien à propos des mystères de l'au-delà, qu'il y avait un besoin d'une spiritualité qui parle au cœur, et qu'il fallait tenir compte du rapport à la nature et au cosmos. Et je crois qu'il faut en tenir compte dans les nouvelles propositions pastorales. Il y a donc à trouver des lieux, créer des lieux même, des espaces, où on peut se réapproprier toutes ces questions et y répondre, ou tâcher d'y répondre, avec une approche évangélique, une approche chrétienne, non prétentieuse de posséder toute la vérité, mais tout de même riche d'un trésor millénaire, où nous avons à puiser et à redécouvrir peut-être des réponses que nous avions oubliées. Et je pense par exemple à la connaissance de la Bible et aussi à la connaissance des pères de l'Église, ceux qui se trouvaient confrontés à toutes sortes d'hérésies au début de l'Église. Mais je ne vais pas creuser ces questions-là parce que je crois que c'est tout un travail de créativité qui doit être fait par les personnes qui seront en situation de faire des propositions pastorales là où elles sont aujourd'hui, suivant en fonction du contexte où elles vivent et des demandes qui leur sont adressées. Ce sera différent si on se retrouve avec des jeunes très influencés par l'attirance pour les mystères, faire tourner les tables, parfois même le satanisme. Ce sera différent si on accueille des gens dans un centre pour soins palliatifs, par exemple. Ce que je voudrais vous proposer maintenant, c'est quelques éléments de discernement, quelques critères de discernement à propos justement de ce foisonnement de propositions thérapeutiques ou religieuses que nous connaissons aujourd'hui. Un mot à propos de l'accompagnateur spirituel que vous pourriez avoir ou du thérapeute. Je vous le disais et j'y reviens parce que ça me paraît important. Si on vous propose une démarche, en groupe ou personnellement, ce qui me paraît essentiel, c'est de voir dans quelle mesure cette démarche me permet de grandir en liberté intérieure et en enracinement dans la réalité afin de mieux aimer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que le chemin que je suis en train de parcourir me rend plus libre dans les revendications de mon petit moi, de ce que je veux faire, de ma volonté que le monde se plie à moi, de tout ce qui pourrait être toute puissance en moi? Est-ce que ça me permet de mieux adhérer à la réalité telle qu'elle est, en changeant ce qui peut être changé, bien sûr, mais en acceptant ce qui ne peut pas être changé? Et en tout cas, en ayant toujours comme perspective ma qualité d'amour, est-ce que j'aime mieux, est-ce que j'écoute mieux, est-ce que j'accueille mieux? Et pour ceux qui sont croyants, en conformité avec ma foi, avec ma croyance. Et dans une perspective chrétienne, il est très important de voir est-ce que ce chemin prend en compte la dimension de l'esprit, de mon cœur profond, de l'âme, du psychisme et du corps. Les 3 dimensions doivent être présentes dans un chemin de maturation. Ensuite, le thérapeute, le groupe de prière, peut-être le berger du groupe, a-t-il la prétention de prendre en charge tous les aspects de ma vie personnelle? Et là, je mets en garde contre ce que j'appelle le syndrome gourou, Vous avez des thérapeutes qui veulent vous prendre en charge sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan moral, dans tous les domaines. Autant, ça me paraît très important d'avoir une approche holistique de la personne. J'ai déjà expliqué le sens de ce mot, cette approche intégrale. Si je suis un accompagnateur et que la personne est fragile et en difficulté, c'est important que je me pose la question, non seulement de son état spirituel, mais aussi de son état psychique, de son état de santé, de ses relations, tout ce qui peut faire que la personne est fragilisée aujourd'hui. Et donc c'est important. Mais une fois qu'on a repéré qu'il y a là une diversité de causes dans la fragilité que vous pouvez vivre aujourd'hui, il est important de faire plutôt appel à une équipe pluridisciplinaire, renvoyer à un collègue qui est plutôt spécialiste dans tel ou tel domaine, que de vouloir prendre en charge complètement la personne. Et donc, si je suis accompagnateur spirituel, je ne suis pas à la fois médecin, psychologue et spécialiste de toutes les thérapies alternatives. De même, si je suis thérapeute, eh bien que je tienne ma place et qu'éventuellement je renvoie à quelqu'un d'autre. Ça me paraît très important parce qu'il y a actuellement des personnes qui sont devenues des clients de thérapeutes et de gourous autoproclamés et qui perdent leur liberté. Un autre élément, c'est dans l'accompagnement ou la thérapie que je suis, est-ce qu'on tient compte des exigences des sciences humaines ? Et là, je pense particulièrement aux personnes qui suivent un accompagnement spirituel. Il y a une autonomie des sciences humaines. Il faut faire très attention parce que parfois vous avez un discours spirituel sur une blessure que l'on peut avoir vécue, où on va parler ou introduire des notions de péché, là où en fait il s'agit de fragilité, qui relève d'une approche psychologique, d'un véritable diagnostic thérapeutique. Donc, il faut aussi que les groupes spirituels reconnaissent leur besoin de l'aide des sciences humaines. Mais par ailleurs, le thérapeute doit pouvoir reconnaître aussi la dimension spirituelle d'une quête personnelle. Ne pas dénigrer la dimension religieuse. Reconnaître que le chemin spirituel a quelque chose à voir avec une réintégration d'une harmonie ou d'une unité de la personne. Et donc, autant je pense qu'il n'est pas nécessaire que le thérapeute soit chrétien, parce que vous pouvez avoir des chrétiens qui sont de très mauvais thérapeutes et des thérapeutes qui ne sont pas chrétiens qui sont d'excellents thérapeutes. Mais qu'au moins ce thérapeute respecte cette dimension spirituelle et respecte la personne dans son chemin de ce type-là. Si vous avez un accompagnateur spirituel, prend-il suffisamment en compte les dimensions affectives et corporelles de votre chemin spirituel ? Il y a des démarches spirituelles qui sont totalement déshumanisantes. Il y a des ascèses qui ne respectent absolument pas le terrain psychologique ou physique de la personne. Il y a des groupes où véritablement les personnes sont déshumanisées parce qu'on leur propose un idéal qui est disproportionné, qui ne respecte pas l'être que vous êtes. Personnellement, je fais un travail d'accompagnement spirituel et d'initiation à la prière où toute la dimension affective et corporelle sont prises en compte. Et c'est là que nous avons des choses aussi à prendre des traditions orientales, mais pas uniquement. Je vous l'ai dit dans d'autres émissions, les grands saints, les grands fondateurs de congrégations tenaient compte de la dimension physique. Est-ce que votre accompagnateur tient compte aussi de cela ? Est-ce que vous priez avec votre corps ? Est-ce que vous tenez compte de vos limites physiques dans votre chemin spirituel ? À propos de l'acquisition d'une formation ou de l'exercice d'une activité thérapeutique, là je poserai la question. Si vous vous formez à l'accompagnement spirituel ou psychothérapique, est-ce que vous êtes à la recherche d'un pouvoir ou d'une compétence ? Il y a une règle sacrée, si l'on peut dire, en christianisme, c'est qu'on n'accompagne jamais sans être soi-même accompagné. Il faut savoir que si vous êtes en situation de soignant ou d'accompagnateur, vous êtes toujours tenté par la toute-puissance. Ce n'est que si vous avez fait vous-même un travail de démaîtrise, de libération intérieure et de clarification concernant les raisons pour lesquelles vous accompagnez, vous visitez des malades, les raisons pour lesquelles vous vous intéressez à la fragilité des autres, voir si c'est vraiment juste, où est-ce que vous en êtes par rapport à vos propres fragilités. Pas d'accompagnement sans supervision, pas de soins sans mise au point, sans discernement. Ça me paraît fondamental. À propos de l'appartenance à un groupe, il y a certainement parmi les auditeurs des gens qui appartiennent à des groupes de prière du renouveau ou à d'autres groupes. Si l'on chemine, si vous cheminez dans un groupe, Qu'en est-il de votre liberté par rapport à une certaine dépendance ou une attitude fusionnelle vis-à-vis du groupe? Est-ce que vous arrivez à exister indépendamment de votre groupe? Est-ce que vous avez encore une autonomie? Est-ce que vous êtes capable de parler librement, de penser librement? Est-ce que vous êtes complètement pris par le jargon de votre groupe? Est-ce que vous pouvez faire une critique à votre berger? Est-ce que vous avez le droit d'exister comme une personne unique? Est-ce que vous avez le droit de mettre en question certaines habitudes? Je suis en contact avec des groupes où je constate que dès qu'une question semble mettre un petit peu en critique les capacités ou les connaissances de l'équipe qui anime, ou du fondateur, ou du berger, eh bien cela provoque presque immédiatement un rejet. Attention au fusionnel, attention à l'englobant. Gardez votre liberté. Ne vous laissez pas manipuler, même par un grand maître charismatique. À propos de l'itinéraire spirituel ou thérapeutique personnel, d'un point de vue chrétien, n'oubliez pas que nous appartenons à une communauté et qu'il y a des médiations, c'est-à-dire des êtres à travers lesquels des réponses nous sont apportées ou des situations. Mon prochain, une communauté, la parole de Dieu qui doit être pour moi un lieu de critère de discernement, les sacrements, la liturgie. Je sais que les liturgies ne sont pas toujours très adaptées. Je sais qu'on peut être parfois mal à l'aise par rapport à certains enseignements de l'Église. On a le droit d'être en chemin. On a le droit de chercher. Mais il est important pour un chrétien de rester relié à une communauté et de se faire accompagner. Avez-vous la prétention de vous sauver vous-même par vos pratiques? Que ce soit des pratiques spirituelles, physiques, psychologiques, etc. Si c'est le cas, faites attention. Faites attention aussi par rapport à un usage magique de la parole de Dieu qui donnerait tout de suite les réponses lorsqu'on l'ouvre simplement comme cela. La parole est lue en communauté, en église. Et puis, est-ce que vous êtes conscient que tout système médical ou thérapeutique véhicule une certaine vision de Dieu, de l'homme, du salut, du cosmos, etc. Donc si vous faites appel à d'autres thérapies, à des thérapies alternatives, à d'autres médecines, voyez si c'est compatible avec une approche chrétienne. Certains s'engagent dans des pratiques énergétiques qui sont en contradiction avec l'approche chrétienne. Donc faites attention à ces éléments-là. Et certains groupes aussi, peut-être, voient Satan un peu trop facilement partout. Faites attention. Et enfin, ne faites pas d'un chemin de guérison une fuite de la réalité. Cela est très important parce que parfois, on risque de mettre Dieu au défi d'intervenir. Alors, au moment de terminer, je dirais, eh bien simplement, laissez-vous aimer par votre Dieu qui est aussi votre Père, qui a des entrailles maternelles. Faites ce qui dépend de vous, prenez votre responsabilité, mais ne restez pas seul. Laissez-vous accompagner par des personnes qui sont capables de vous accompagner, qui sont de vrais spirituels. Laissez-vous aimer par votre Dieu qui vous envoie toujours l'esprit dont vous avez besoin. Faites confiance. Le Seigneur marche avec vous, vous a donné un cœur, une intelligence et une volonté. Eh bien, accueillez tout cela avec amour et reconnaissance et entendez dans vos profondeurs cette parole qui vous est dite « Tu es mon enfant bien-aimé ». Et ce que je quitte maintenant parmi nos auditeurs à la fin de cette série d'émissions, ce serait mon souhait le plus profond, c'est que tous les matins, ils puissent s'émerveiller de cette réalité. C'est bien vrai, je suis le bien-aimé du Père.
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.